Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Yoga et nous. Je suis Laura Châtelain, journaliste spécialisée en santé et pratiquante de yoga depuis plusieurs années. Pour moi, c'est vraiment plus qu'une pratique physique, c'est aussi une approche qui change notre rapport au corps, notre façon de voir les choses et qui infuse notre quotidien. Tous les 15 jours, je reçois des profs passionnés et aujourd'hui, j'échange avec Tran, qui est professeur de yoga, et Mélissa, qui est coach et facilitatrice. Ensemble, elles ont créé les retraites chez soi qui se déroulent entre femmes et qui sont tournées vers la sororité. Avec elles, on explore les façons dont le yoga peut nous aider sur le chemin infini vers la connaissance de soi. Si vous souhaitez soutenir ce podcast, n'hésitez pas à le partager autour de vous, à vous abonner à mon compte Instagram @yogaetnouspodcast et à me laisser une note et un commentaire sur Apple Podcast ou Spotify pour le faire connaître. Bonne écoute! Bonjour Tran, bonjour Mélissa, merci beaucoup d'être avec moi aujourd'hui.
Bonjour Laura, merci de nous recevoir.
Bonjour, merci à toi.
Alors est-ce que vous pouvez, pour commencer, peut-être chacune vous présenter et puis nous dire quelques mots sur ce que vous faites ensemble autour du yoga, c'est-à-dire vos retraites notamment.
Ok, ça marche. Du coup, moi je m'appelle Mélissa, je suis facilitatrice d'atelier. Je suis aussi formée au coaching et je suis formée sur les questions de violences faites aux femmes. Donc voilà, dans le cadre des retraites qu'on propose avec Tran, moi je facilite donc des ateliers avec des outils de développement personnel et avec un angle féministe, parce que du coup c'est mes convictions à moi et que je pars de mon point de vue situé pour créer les ateliers et proposer des cercles de parole aussi.
D'accord, et toi le yoga c'est quelque chose que tu pratiques depuis longtemps ou...
Eh bien écoute, ça fait 4 ans et demi, quelque chose comme ça maintenant que je pratique, donc je suis que pratiquante, je ne suis pas prof et pas formée pour enseigner, mais c'est quelque chose qui a quand même clairement changé ma vie, donc c'est pour ça que quand on a envisagé le projet avec Tran, c'était vraiment cette idée qu'il y a un mélange de yoga et d'atelier en fait, donc l'approche par le corps et par la parole, et... Du coup, Tran, c'est elle qui s'occupe de la partie corps et qui est prof de yoga.
Du coup, moi, je m'appelle Tran, je suis pratiquante et professeure de yoga. Donc, j'enseigne principalement le vinyasa, l'ashtanga et le yin yoga. Et je pratique, depuis un peu plus de 10 ans. Et j'enseigne depuis bientôt 4 ans maintenant. Et je pense que j'ai rencontré Mélissa vraiment au début, quand je commençais tout juste à enseigner. Je pense que le projet qu'on a monté toutes les deux m'a beaucoup fait grandir, à la fois dans ma pratique et dans mon enseignement.
D'accord. Et donc, votre concept de retraite chez soi, c'est des retraites qui sont réservées exclusivement aux femmes et qui sont autour du concept de la sororité, c'est ça ?
Exactement. L'idée, c'était de partir du principe qu'il y a des sujets qui ont besoin d'être abordés en non-mixité et que les femmes dans la société d'aujourd'hui ont particulièrement besoin d'espace pour prendre soin d'elles, parce qu'en fait, globalement, c'est elles qui font le travail de care, à la fois dans leur milieu professionnel, elles sont surreprésentées dans tous les métiers qui prennent soin des autres, et à la fois dans leur vie perso, où en général, c'est elles qui font le soutien émotionnel, c'est elles qui ont la charge majoritaire quand il y a des enfants. Potentiellement, c'est elles qui sont le soutien émotionnel de leurs compagnons, leurs amis, leurs familles. Donc on est persuadé qu'il y a vraiment besoin d'espace pour qu'elles puissent se retrouver entre elles, prendre soin d'elles, et justement se remettre en priorité par moment pour mieux revenir après dans le monde et continuer à prendre soin si elle le souhaite, parce que c'est chouette.
Et justement, est-ce que vous diriez qu'à l'issue de ces quelques jours de retraite, vous observez généralement que les participantes se connaissent un petit peu mieux, puisque c'est notre thème du jour? Est-ce que finalement, ces retraites, elles invitent aussi à ça, à l'introspection, à une meilleure connaissance de soi? Et si c'est le cas, qu'est-ce que les femmes apprennent sur elles, justement, à travers cette pratique? Est-ce que vous leur proposez dans les retraites?
Dans les ateliers, en tout cas, moi, je vais essayer de les amener à prendre un pas de recul pour se poser des questions et effectivement avoir une forme de réflexivité sur sa vie ou sur son histoire. On a différentes thématiques dans les retraites, donc en général, elles ne choisissent pas la thématique par hasard. Notamment, on en a une qui est sur le rapport au corps. Donc, on va pouvoir se poser en fait et se questionner et regarder un peu l'histoire qu'on a dans la relation avec son corps et peut-être commencer à poser des actions d'intention, en fait, de comment on a envie d'être en lien avec son corps à partir de maintenant, en constatant potentiellement qu'on a vécu pas mal d'années déconnectées de son corps, à subir les injonctions de la société dans laquelle on vit. On a aussi évidemment une proportion importante de femmes qui ont subi des violences au cours de leur vie, donc ça impacte aussi le rapport avec le corps. Donc ça, c'est une de nos thématiques, mais plus globalement, dans tous les ateliers, moi, ce que je vais essayer de faire, c'est de leur créer un espace pour qu'elles puissent s'exprimer sur leur vie et leur partager des outils, effectivement, de réflexion, d'introspection. C'est toujours très en douceur et c'est toujours que des suggestions. Et Tran, de son côté, accompagne les femmes plus à travers le corps et à connaître d'autres aspects aussi de leur vie.
Mais effectivement, je pense que si on revient juste au concept des retraites de yoga et plus particulièrement de celles qu'on propose, l'idée c'est vraiment d'essayer de se retirer de son quotidien et de pouvoir essayer de prendre le temps d'apprendre à mieux se connaître. Donc je pense qu'effectivement, la connaissance de soi est vraiment au cœur de ce qu'on essaye de proposer, parce que le fait vraiment d'être coupé de son quotidien et d'être dans un autre environnement fait que ça invite à essayer de venir se reconnecter un petit peu mieux à soi. Et le fait qu'on soit deux accompagnantes dans ce projet, c'est vraiment d'essayer d'avoir une approche à la fois par la parole avec Mélissa et par le corps avec la pratique du yoga. Et on commence souvent nos retraites en disant qu'on pense sincèrement qu'apprendre à mieux se connaître, c'est un voyage qui peut durer toute une vie, mais qui passe en grande partie par le fait de reconnecter le corps et l'esprit. Parce qu'on vit dans une société, on est complètement déconnecté de nos sensations. On est dans un système qui fait qu'on doit suivre des règles, suivre des normes qui sont plus axées sur le mental, disons. Et dans le fait de s'offrir juste un temps pour justement s'extraire de son quotidien, fait qu'on aura plus tendance à essayer de s'écouter soi quand on n'a pas toutes les contraintes du quotidien. Et je pense que c'est vrai pour une retraite de yoga, mais c'est aussi vrai pour juste une pratique, quand on s'accorde un temps sur le tapis pour pouvoir essayer de mettre l'agitation du quotidien de côté et se recentrer un petit peu plus sur soi et partir dans une sorte de voyage intérieur.
Et de manière générale, est-ce que vous avez l'impression, vous en tout cas, chez les femmes que vous recevez dans vos cours ou dans vos retraites, que les femmes se connaissent souvent mal ou trop peu, en tout cas, que ce soit au point de vue physique ou émotionnel d'ailleurs ?
C'est une question assez difficile, je trouve, parce que je pense qu'on est en exploration permanente, en fait, de qui on est. Donc, en fonction de notre point de départ, le processus, disons, d'apprentissage ne sera pas forcément le même. Mais en tout cas, quand je prends du recul sur les femmes que je vois passer en retraite, ça dépend aussi beaucoup de la porte d'entrée par laquelle elles nous ont trouvées. Il y en a beaucoup qui viennent par le yoga et aussi beaucoup qui viennent juste par l'angle des cercles de parole. Donc en fonction de ça, on voit différents types de profils. Et en tout cas, sur la partie, on va dire, conscience corporelle, je vois que c'est assez divers et c'est pas forcément lié à la pratique, leur niveau de pratique entre guillemets. La conscience corporelle, elle peut être très bien développée par des personnes qui ne pratiquent pas du tout le yoga comme par des personnes qui le pratiquent. Donc je pense que c'est pareil, je pourrais pas faire de généralité là-dessus, mais en tout cas, je sens que les femmes qu'on rencontre, qui ont fait cette démarche de venir faire une retraite, ont déjà au moins cette envie de poser de la conscience sur qui elles sont.
Alors avant qu'on rentre un petit peu dans la façon concrète, hein, dans le yoga notamment, va faire évoluer cette connaissance de soi. Tran, je ne sais pas si toi tu as beaucoup étudié les textes anciens autour du yoga dans tes formations ou pas, mais il me semble avoir vu passer que cette idée de la connaissance de soi était quand même assez centrale dans le yoga et que même le yoga, ça pouvait être justement ça, le chemin vers la connaissance de soi. Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus sur ce qui en est dit dans les textes en tout cas?
Alors effectivement, c'est une idée qu'on retrouve souvent dans les textes anciens. Et encore une fois, je pense qu'on peut passer toute une vie à étudier les textes autour du yoga. Donc je pense que je vais parler de moi, ce que j'en ai étudié, on va dire. Et effectivement, il y a la notion de Svadhyaya qui revient assez souvent, qui à la fois dans les Upanishads et dans les Yoga Sutra Patanjali, qui fait partie des Niyamas, donc un des piliers de l'Ashtanga Yoga, où c'est une pratique qui invite à l'étude des textes, donc à la connaissance des textes sacrés, des textes anciens, mais aussi à l'étude de soi, par les textes, justement. Et l'idée, je ne sais pas si on peut parler d'idée centrale dans le yoga, parce que ça voudrait dire qu'il y a vraiment une seule définition, mais en tout cas, si on considère que l'une des approches du yoga, c'est une voie de libération, le fait d'apprendre à mieux se connaître, c'est une manière de sortir de l'ignorance, de libérer le mental et pouvoir se connecter à autre chose. Et donc, du coup, cette notion de connaissance de soi, elle est assez clé pour pouvoir atteindre ce détachement, cette libération. Et il y a une citation de BKS Iyengar que j'aime beaucoup qui parle de cette notion-là, qui dit un truc du style « La personne qui pratique Svadhyaya lit le livre de sa propre vie en même temps qu'elle l'écrit et qu'elle le corrige ». Et j'aime bien cette approche parce qu'on voit bien que la connaissance de soi implique de l'observation, donc une phase vraiment c'est de s'observer qui on est, à la fois ses sensations, ses manières d'interagir avec les autres, avec le monde, avec soi-même, mais en observant, on est aussi acteur ou actrice de cet apprentissage. Et je pense que c'est en ça que le yoga est une voie d'exploration assez formidable pour la connaissance de soi. C'est justement une invitation à s'observer, à essayer d'apprendre comment on fonctionne par le ressenti, par l'observation, mais aussi en essayant d'être acteur et actrice de qui on a envie d'être, quoi. Je pense que c'est comme ça, en tout cas, que je le lis quand je tombe sur cette notion-là, on va dire.
Ouais, bah merci pour cet éclairage, en tout cas. Et oui, alors justement, on peut peut-être commencer par là, par parler de cette observation qui est au cœur de la pratique. Est-ce que dans la connaissance de soi, finalement, ça commence toujours par être capable d'observer, et notamment peut-être d'observer les choses telles qu'elles sont, que ça concerne notre corps, notre souffle, nos émotions, peu importe, par opposition peut-être à ce qu'on voudrait que les choses soient ou ce qu'elles étaient avant. Enfin, est-ce qu'il y a cette notion importante d'observer, et d'observer d'ailleurs de manière assez neutre et sans jugement, parce que c'est ça la partie la plus difficile.
Je pense qu'effectivement, la pratique du yoga nous invite en premier lieu à observer en essayant d'abandonner toute cette notion de performance dont on a l'habitude au quotidien, quoi. En tout cas, moi, c'est comme ça que j'essaye de pratiquer et que j'essaye de l'enseigner. Parce que finalement, quand on se retrouve sur le tapis, c'est vraiment un moment pour soi. On essaye de laisser tomber tous les masques. Et en essayant de laisser tomber tous les masques et en se détachant vraiment du but de la pratique, je dirais, c'est vraiment une invitation à essayer d'observer à la fois son ressenti corporel, son ressenti émotionnel, l'état de son mental, pour essayer justement d'avoir un regard qui est relativement neutre et de faire taire cette petite voix qu'on a souvent, très souvent au quotidien, de jugement qu'on a sur sa propre personne, quoi. Donc oui, je pense que le yoga est une... Enfin, l'observation dans la pratique de yoga est vraiment une première étape, voire l'étape centrale, pour essayer d'apprendre à mieux se connaître.
Oui, ça rejoint, Mélissa, aussi peut-être ce que tu disais tout à l'heure sur les femmes qui peut-être pensent qu'en tout cas elles sont comme ça parce qu'on leur a mis des étiquettes ou elles se les sont mises, mais pour plein de raisons. Et ça, est-ce que toi tu observes que la pratique du yoga aide justement à enlever un peu ces étiquettes de « ah oui, mais moi je suis comme ça, mais moi je suis nulle à ça » ou ce qu'on a un peu toute tendance à faire et bon, voilà.
Bah, en fait, dans tout ce qu'on propose avec Tran, on est parti de notre expérience personnelle. Donc moi, j'étais totalement déconnectée de mon corps jusqu'à il y a 4-5 ans. Donc c'est pour ça que le yoga a été une espèce de révélation. Et tout à l'heure, je parlais de références extérieures. En fait, c'est ça, c'est les petites voix en fait, qui existent à l'intérieur de nous, mais qui en réalité ne nous appartiennent pas. Mais on se les est appropriés. Et c'est ces voix de jugement, c'est ces voix d'injonction, c'est ces voix qui vont nous dire justement qu'on est nul, etc. Le yoga, et je pense aussi les ateliers, parce que le cadre qu'on pose dans les retraites, il vaut à la fois pour les pratiques de yoga et tout ce qui va être en lien avec le corps, et à la fois pour les cercles de parole, donc bienveillance, non-jugement, etc. Et c'est de ramener cette petite voix intérieure, en fait, qui est connectée à nos sensations dans le corps, pour venir nous dire en réalité ce qu'on ressent et que ce soit pas et que ce soit qu'on puisse justement se détacher de ces voix qui alimentent notre manque de confiance en soi, voilà, le jugement qu'on porte sur soi, le fait d'avoir envie de se comparer avec la personne qui est à côté. Donc moi, je suis profondément persuadée, en tout cas dans mon expérience, que le fait d'être connectée aux sensations que j'ai dans le corps me force à être entièrement ancrée dans l'instant présent et donc d'abandonner ces petites voix ou en tout cas de les mettre à distance, même si elles sont toujours présentes, pour pouvoir réellement me concentrer sur « Ah, si je bouge d'un centimètre, là, je sens que c'est une sensation qui est quoi ? Agréable, pas agréable ? Le curseur entre l'inconfort et le confort, où est-ce que j'ai envie de le mettre aujourd'hui ?» Et d'aller vraiment de plus en plus dans la connaissance de soi et de son corps, vers des sensations de plus en plus subtiles et qui, du coup, vont continuer à exister en dehors des pratiques.
Par rapport à ce que disait Mélissa, je voulais juste rajouter que, en tout cas, moi, dans la posture que j'ai en tant que professeur de yoga dans les cours, je répète beaucoup cette notion d'observation, de détachement, de non-jugement, etc. Mais ce que j'invite aussi les participantes, enfin les élèves en général, à observer, c'est que même si cette petite voix, elle est là, du moment qu'on pose de la conscience dessus, c'est OK. Parce que c'est pas la peine de se rajouter une injonction supplémentaire ou des petits coups de bâton supplémentaires en disant « Ah là là, là je suis en train de me comparer aux autres » ou « Je suis en train de me juger aux autres, par rapport aux autres ». Et je pense que c'est important de le dire, ça, c'est que effectivement le yoga nous aide à essayer d'avancer vers ce non-jugement, mais que c'est un travail et c'est pas linéaire, quoi. Et que c'est OK si ça revient de temps en temps, mais juste le fait d'observer que cette voix, elle est là, c'est déjà une forme de compréhension vis-à-vis de soi-même.
Et Mélissa, justement, tu parlais de curseur entre le confort et l'inconfort. Ça, je pense que ça fait partie aussi de ce qu'on apprend en yoga sur la connaissance de soi. C'est l'idée de connaître aussi à la fois ses possibilités et ses limites, alors notamment en ce qui concerne le corps, mais pas que. Et il y a cette idée, effectivement, de trouver la posture juste, le degré d'effort juste pour nous dans la pratique posturale. Et ça, est-ce que ça nous entraîne aussi à savoir ce qui est bon pour nous ou pas dans la vie? Est-ce que vous pensez que ça peut même aider le fait de connaître ses limites, en tout cas de les définir de manière un peu plus claire? Ça peut aider à faire des choix aussi plus éclairés? Et est-ce que vous, peut-être, vous avez des exemples personnels de la façon dont ça a pu vous aider dans votre parcours?
Bah, moi, je suis évidemment persuadée de ça. Dans la majorité de nos retraites, ce qu'on dit aux femmes, c'est que si on veut qu'elles retiennent une chose, une seule, à la fin des retraites, c'est qu'elles auraient eu l'impression de s'être un peu plus écoutées que dans leur vie normale. Donc ça marche évidemment dans tous les domaines. Et du coup, c'est vraiment cette idée de poser de la conscience sur quelles sont les voix à l'intérieur de moi qui prennent la parole et auxquelles j'ai envie de m'accrocher ou pas, en fait. Et de pouvoir s'autoriser à faire le tri et du coup de faire des choix ensuite en fonction qui soient plus en conscience. Donc ça, je crois que c'est aussi toute la démarche du coaching, c'est de revenir à une forme de liberté, de choix, de pouvoir d'agir. Et nous, plus globalement, dans nos convictions aussi par rapport au féminisme et au fait d'accompagner des groupes de femmes, il y a vraiment cette notion d'empowerment. C'est vous êtes les expertes de votre vie, vous êtes les expertes de votre corps, et nous, on va juste être là avec l'intention de vous accompagner à mieux vous connaître, à davantage de conscience sur votre corps, vos émotions et votre mental, et ensuite de faire les choix qui vont vous permettre d'être les plus libres possibles et les plus autonomes aussi possibles. Parce que souvent, il peut y avoir une forme de dépendance qui va se créer avec des pratiques ou avec des thérapeutes, des accompagnants, etc. Nous, le but ultime, c'est que les femmes soient autonomes dans leur self-care, dans leur capacité à prendre soin d'elles, à s'écouter, à se connaître, à se libérer des injonctions. Donc en fait, à la fois, quand on les a en face de nous, on leur dit « on s'occupe de tout, vous n'avez rien à faire » parce que voilà, on considère qu'elles en ont réellement besoin. Et en même temps, on passe notre temps à leur dire « il n'y a aucune obligation, tout ce qu'on vous propose ne sont que des propositions et des suggestions. » Et posez-vous tout le temps la question de vous dire « est-ce que là, j'ai envie de faire ci ou de faire ça ?» On leur dit même, par exemple, dans les interactions de groupe, que souvent, on va se retrouver dans des dynamiques de groupe avec des femmes qu'on ne connaît pas, ou on va se retrouver, par exemple, dans une conversation où on n'a pas forcément envie d'être, en fait, parce qu'on est claqué et qu'on a juste envie d'aller faire une sieste ou de passer un moment seul à écrire dans son carnet. Et en fait, par politesse, on va rester. Et ça, on leur dit dès le début, on leur dit, c'est un moment qui est pour vous et on est dans un espace dans lequel c'est OK, en fait, de formuler je vais m'extraire de ce groupe et je vais faire quelque chose qui est en lien avec ce dont j'ai besoin et envie pile à ce moment-là. Donc ça se traduit aussi dans les codes de communication qu'on va proposer dans le cadre des retraites.
Oui, ça apprend aussi à poser ses limites, oui, dans ses relations avec les autres et ne pas dire oui quand on n'a pas envie, quoi. Ce qu'on fait effectivement tous et toutes au quotidien. Et Tran, ouais, ça, toi, comment tu le vois, ce truc-là? Et est-ce que justement, c'est peut-être au début, quand on débute la pratique, une des choses les plus difficiles de comprendre et puis de savoir trouver ses propres limites, c'est-à-dire par exemple pour ne pas simplement imiter la posture du prof parce que elle, voilà, on voit qu'elle descend jusque là, donc ok, moi il faut que je descende jusque là, et d'arriver, voilà, à trouver ce qui est bon pour soi. Est-ce que ça, tu vois beaucoup tes élèves progresser là-dessus justement en particulier?
Oui, c'est quelque chose que sur lequel j'insiste beaucoup, le fait de s'écouter. Donc ça passe par le fait de donner l'indication verbale, de toujours le répéter, et à force de le répéter, les élèves finissent par essayer de l'intégrer. Mais ça passe aussi par le fait de proposer plein de variations pour la même posture. Parce que montrer qu'une même posture, on peut la faire de 10 manières différentes, fait que chaque femme ou chaque homme qui sont en cours avec moi vont se poser la question de « Ah, et si j'essayais comme ça, est-ce que ce ne serait pas mieux ?» Et en insistant sur le fait que la variation la plus impressionnante, ce n'est pas forcément la mieux. Il n'y en a pas une qui est mieux qu'une autre, quoi. Et ce que j'aime beaucoup, notamment dans le cadre des retraites, parce qu'à force de le répéter et à force d'être dans un cadre qui est bienveillant, on voit que les femmes s'autorisent un peu plus à s'écouter. Et notamment sur nos formats qui sont un peu plus longs, j'insiste vraiment sur le fait que parfois c'est plus difficile de faire quelque chose, de ne pas suivre le cours, mais parce qu'à ce moment-là, on a besoin de faire une pause ou prendre un autre type de posture. Donc, essayer vraiment de se poser la question, est-ce que là, ce que je suis en train de faire, est-ce que ça me fait du bien, ou au contraire, est-ce que je devrais m'arrêter et prendre un temps pour moi. Et au début, ça, je vois que les femmes, l'écoutent, mais l'intègrent pas forcément. Et parfois, à la fin de la semaine, pour une même posture, je vais avoir 10 postures différentes, voire la moitié qui sont en guerrier, l'autre moitié qui sont en posture de l'enfant parce qu'elles sont fatiguées, qu'elles sont plus dans une énergie, on va dire une énergie yin, une énergie de détente. Et là, c'est là où je me dis que je suis vraiment heureuse de faire ce que je fais parce que le message est passé à ce moment-là, quoi. Je trouve ça très beau, en fait, d'être témoin de cette démarche d'observation.
Ouais, je comprends. Et en ce qui concerne la pratique physique, je pense qu'il y a une notion aussi qui est intéressante dans cette histoire de meilleure connaissance de soi, c'est celle de proprioception. Alors, est-ce que peut-être, Tran, tu peux nous rappeler un peu ce que c'est la proprioception, hein, qui est une forme de conscience de son corps, et pourquoi c'est important, en quoi ça va être important au quotidien, et en quoi ça fait partie de la connaissance de soi au niveau physique, en tout cas?
Je pense qu'on peut définir la proprioception comme le fait de poser de la conscience ou d'avoir une perception de son corps dans l'espace. Et c'est une notion qui est, disons, importante dans le sens où ça permet de bien se situer, de soi par rapport à soi déjà, et soi par rapport au monde et aux personnes qui nous entourent. Et la pratique du yoga, c'est vraiment une pratique très encourageante, une très belle pratique pour pouvoir travailler la proprioception, parce qu'il y a notamment certaines postures qui travaillent justement cette notion de placement dans l'espace, comme les postures d'équilibre sur les... Enfin, pas forcément à l'envers quand on dit l'équilibre, des équilibres sur les pieds, c'est une très bonne manière de travailler la proprioception. Et il y avait aussi une autre notion qui nous a inspiré avec Mélissa, peut-être que tu veux en parler.
Oui, je peux. Du coup, c'est la notion d'interoception, qui est le fait d'être capable de ressentir les sensations qui existent à l'intérieur de son corps. Et plus on va travailler ça, plus on va pouvoir ressentir précisément et subtilement toutes les plus petites sensations dans le corps. Et ça, il y a des études qui ont montré que les personnes qui ont subi des traumatismes, et donc si on prend l'exemple des femmes qui ont subi des violences au cours de leur vie, ont particulièrement une interoception faible, du coup qui crée cette déconnexion du corps, et parfois même on peut parler de dissociation comme phénomène du psychotraumatisme. Et donc le fait de pratiquer le yoga ou même dans les méditations, de mettre l'accent sur la respiration, sur ressentir qu'on gonfle le ventre, etc., toutes ces sensations subtiles qu'on va essayer de faire ressentir aux personnes qui sont là, ça a un impact énorme en fait sur le fait de se réassocier et de se réapproprier son corps et donc forcément d'être dans la vie de tous les jours aussi plus capable de faire la différence entre des sensations de plaisir et des sensations de douleur et d'être dans, encore une fois, dans cette subtilité de pouvoir mettre le curseur au bon endroit. On précise aussi beaucoup cette différence, et notamment Tran le fait dans les cours de yoga, où on dit faites attention, portez un regard sur est-ce que c'est un inconfort ou est-ce que c'est une douleur. C'est très différent. Et c'est pareil au niveau émotionnel, en fait. Moi, je leur propose des choses qui peuvent être parfois challengeantes parce que ça va être lié à des choses intimes ou juste des choses qui vont peut-être... engager le corps, par exemple, et on va se sentir hyper ridicule parce qu'on a l'habitude de se dire « Ouh là là, mais qu'est-ce que je suis en train de faire si ma mère me voyait elle se moquerait bien de moi et tout ça. » Ben ça, c'est pareil, c'est de dire « Ok, parfois, pour se challenger, pour étendre sa zone de confort, on va aller dans l'inconfort, on va expérimenter des nouvelles choses, mais si c'est pas le moment pour vous, s'il y a des choses qui viennent résonner, vibrer trop fort, bah, ça veut dire que c'est plus de l'ordre de la douleur et que c'est pas le moment pour vous de le faire et c'est ok en fait. Et ça sera peut-être le moment à un autre moment, ça sera peut-être jamais le moment et tout ça c'est ok aussi.
Ouais, c'est intéressant ce que tu dis sur l'interoception, c'est vrai qu'on en parle moins souvent, mais ouais, notion très intéressante aussi. C'est vrai que sur toutes ces notions, bah, c'est ce que vous nous avez dit toutes les deux hein, tout à l'heure, c'est des choses sur lesquelles on n'a jamais fini en fait d'apprendre sur soi, c'est le parcours de toute une vie, et même dans sa pratique du yoga, on le sait quand on pratique depuis plusieurs années que c'est quelque chose qui est de plus en plus profond, de plus en plus subtil, mais qui n'est jamais fini. Et vous justement, à titre personnel, qu'est-ce que peut-être récemment encore vous avez eu l'impression de découvrir sur vous à travers la pratique, voilà, même au bout de plusieurs années?
La question me fait sourire parce que j'ai l'impression que c'est tous les jours en fait. Enfin, à chaque pratique, j'ai l'impression de découvrir une nouvelle subtilité que j'aurais peut-être du mal à décrire avec les mots. Mais en tout cas, moi, dans ma pratique, je sais que j'aime beaucoup le schéma répétitif. Donc, ma pratique, c'est vraiment les mêmes postures dans le même ordre, quasiment tout le temps, on va dire. Et ça a beau être le même schéma, j'ai l'impression de redécouvrir chaque posture, chaque moment, tous les jours, quoi. Et je trouve que c'est vraiment un voyage qui est assez passionnant. Donc, il y a des jours où ça va être de l'ordre purement physique, où j'ai l'impression d'explorer un peu plus de ressenti dans telle ou telle partie de mon corps. Et il y a des jours, ça va être d'ordre émotionnel. Parfois, c'est très positif, où je sens que j'arrive un peu plus à lâcher prise, à m'écouter. Il y a des jours où je sens que je suis un peu plus dissipée ou perturbée et que je vais peut-être me sentir frustrée. Mais je pense que justement la pratique pour moi, je considère ça comme un thermomètre de comment je me sens à l'instant T, quoi. Et le fait de mesurer cette température ou de faire cette, comme en retraite, on utilise souvent l'image de la météo intérieure, c'est une forme de découverte qui est infinie, quoi. Donc je ne pourrais pas te donner d'exemple précis, mais en tout cas, j'ai l'impression que chaque pratique, j'en apprends un tout petit peu plus sur moi-même, que ce soit d'ordre corporel, émotionnel ou mental.
Et Mélissa, tu avais envie de dire quelque chose là-dessus, sur cette idée que, bah oui, que la connaissance de soi, c'est le travail d'une vie, et que j'imagine qu'il y a peut-être plusieurs couches aussi, comme Tran tout au début parlait de masques, peut-être que les masques aussi qui cachent un petit peu la connaissance de soi, on va aussi les faire tomber, mais au fur et à mesure, pas tous d'un coup, quoi.
C'est clair. Moi, j'ai l'impression qu'il y a eu 1000 étapes. Là, je suis dans une phase où j'accueille le fait d'être quelqu'un qui fonctionne beaucoup par période. Et là, j'accueille mon irrégularité. J'ai passé la phase de culpabilité, de me dire « Ah là là, t'as pas assez pratiqué ces derniers temps. Du coup, bah, je galère à faire mes chaturanga et voilà. Et là, je suis dans une phase, ouais, de me dire en fait... ça fait partie de qui je suis. Dès que le cadre commence à devenir, que je m'impose toute seule, hein, commence à devenir un petit peu trop serré, ça ressemble trop à des injonctions pour moi. Et donc, du coup, je me rebelle et je m'en vais. donc j'essaye d'être douce avec moi-même. Et je suis assez convaincue que le yoga va m'accompagner très longtemps. Donc, c'est pas parce que là, je suis dans une période où je pratique beaucoup moins que ça va pas revenir. Et j'essaye vraiment de m'apaiser avec ça. Mais justement, juste avant ça, je suis passée par une période où, pour la première fois de ma vie, j'avais envie de me challenger physiquement, de dépasser des peurs, de dépasser des croyances limitantes, parce que j'ai toujours été celle qui était nulle en sport à l'école. Donc c'était hyper intéressant aussi d'explorer ça. Donc à chaque fois, ça vient toucher à des choses qui sont différentes et qui sont en général très liées à ce que je suis en train de vivre à l'extérieur du tapis. Donc voilà, mais la différence principale que je vois, en tout cas après ces 4-5 années de pratique, c'est un combo de travail sur moi plus global, mais le yoga est vraiment une clé là-dedans. C'est ma capacité à aimer mon corps qui est vraiment vue d'où je suis partie, d'une phase de détestation profonde, intense et de violence envers moi-même. Là, aujourd'hui, il y a quelque chose qui s'est vraiment stabilisé à l'endroit de l'acceptation jusqu'à l'amour vraiment. De mon corps, quoi. Et ça c'est un truc, à chaque fois que je m'en rends compte, je me dis waouh, quel chemin parcouru, et juste tellement heureuse d'avoir eu la chance de croiser le yoga pour contribuer vraiment en grande partie à ça, quoi. Donc c'est possible.
Ouais, c'est chouette, c'est un beau témoignage en tout cas. Est-ce qu'il y a d'autres choses qu'on n'aurait pas abordées et que vous avez envie de nous dire sur ce sujet?
Là en ce moment, du coup, on est en train de faire une formation. Parce qu'on a remarqué que dans nos retraites, il y avait beaucoup de femmes qui nous témoignaient du fait qu'elles trouvaient notre projet inspirant et qu'elles-mêmes se questionnaient sur le fait d'accompagner des groupes de femmes, de faire des cercles de parole ou de proposer des ateliers en lien avec le corps. Et donc, nous, notre but, c'est que ce qu'on propose avec cette approche aussi féministe et engagée, ça puisse essaimer au maximum, que ce concept de sororité puisse se développer bien au-delà de ce que nous, on propose. Donc, on s'est dit que on aimerait en fait pouvoir transmettre et faire gagner du temps à ces femmes notre expérience et nos connaissances à partir, encore une fois, de notre point de vue situé, de notre expérience personnelle, et en prétendant jamais avoir des choses à transmettre qui ont une valeur universelle. Et c'est vraiment une expérience hyper belle de voir ces femmes se rencontrer entre elles, avoir une démarche commune. Et je crois que du coup, le pilier de ce qu'on essaye de transmettre dans cette formation, c'est justement de travailler sur soi pour être capable d'avoir une posture d'accompagnante qui soit juste et qui soit alignée. Donc voilà, quand on a envie de prendre soin des autres de manière générale, je crois profondément au fait qu'on a besoin d'abord de prendre soin de soi et d'aller éclairer ses zones d'ombre et d'aller mettre de l'amour et de la bienveillance sur soi d'abord pour pouvoir en distribuer à l'extérieur, encore une fois, de manière juste. Et typiquement, on parlait de ça hier, de pas se retrouver dans la position de la sauveuse, qui peut être une tendance des femmes qui prennent soin, et on sait pourquoi. Mais voilà, d'être profondément alignée en fait, entre le fait de prendre soin de soi et d'être capable d'accompagner les autres à le faire.
Par rapport à cette formation, nous, le cœur de ce qu'on propose, c'est de proposer des espaces qui sont bienveillants et qui encouragent justement cette introspection et cette connaissance de soi. Et on a choisi le yoga parce que c'est comme ça qu'on s'est rencontré avec Mélissa et qu'on est persuadé que c'est vraiment une pratique, un outil qui pousse et qui encourage cette notion de connaissance de soi. Mais si on a choisi de faire cette formation, c'est aussi pour encourager des femmes à trouver leur propre yoga, c'est-à-dire un yoga on a fait un atelier dans la formation pour essayer de diffuser le yoga, mais au sens très large, parce que je suis persuadée que le yoga, effectivement, il y a de la pratique posturale, il y a des écrits, il y a de la philo, etc., mais que tout dans la vie peut être yoga et que chacune peut trouver sa forme de yoga pour pouvoir le diffuser et accompagner d'autres femmes. Donc voilà, et c'est pour ça que je pense que c'est intéressant de prendre le yoga comme un chemin de connaissance de soi, mais au sens très large, pas juste sur la partie très posturale sur le tapis, quoi. Dans sa relation aux autres, dans sa relation à soi, dans l'étude de texte, mais aussi dans tout ce qu'on fait au quotidien, en fait, qui peut être une forme d'introspection.
Et alors du coup, justement, où est-ce qu'on peut vous retrouver, soit pour pratiquer avec vous dans des cours, soit pour partir en retraite avec vous, ou pour avoir accès à ces nouvelles formations que vous proposez ?
Alors, tout se trouve sur notre site internet, chez-soi-retraite-au-pluriel.com. Et sur Instagram aussi, on a un compte avec toutes les infos, chez-soi.retraite-au-pluriel. Voilà.
D'accord. Et les retraites, elles ont lieu où, généralement ?
Ça dépend, mais en général, les week-ends, on essaye de les faire à moins de 2 heures de Paris, parce que nous, on est dans ce coin-là. Donc, on travaille beaucoup avec un lieu qui est en Mayenne. On travaille aussi avec un autre lieu qui est dans le Perche. Voilà. Et après, on fait le format d'une semaine. Là, pour le coup, il est plutôt dans le sud, dans une maison avec piscine. Et, et on fait ça l'été, au soleil. Et...
Ouais, sympa aussi. Et toi, Tran, est-ce que tu proposes aussi des cours, du coup, en région parisienne, c'est ça ?
Oui, moi, je donne des cours dans des studios à Paris et des cours en ligne aussi.
D'accord. Bah, je remettrai en tout cas toutes les infos dans la description du podcast pour qu'on puisse vous retrouver. Bah, merci beaucoup à toutes les deux pour ce bel échange, en tout cas.
Avec plaisir. Merci.
Merci à toi, Laura.
Merci beaucoup à vous d'avoir écouté cet épisode. À très vite pour un nouvel échange autour du yoga. Et d'ici là, n'hésitez pas à me suggérer des idées de thématiques que vous aimeriez que j'explore dans les prochains épisodes du podcast. À bientôt !